Et c'est le moment de retrouver exceptionnellement à cette heure-ci l'émission Pour la dignité, pour les droits humains avec Régis Coulanges, responsable formation à Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, bonjour à tous.
Alors c'est la rentrée pour tous.
Voilà, c'est la rentrée aussi pour Amnesty International, bien que on continue c'est toujours, même pendant les vacances, à envoyer des actions urgentes à travailler, quoi. Et là, c'est quand même la rentrée du groupe. Dans cette émission, je vous propose de réfléchir un peu sur la critique de la politique de l'État d'Israël. Est-ce que ça relève de l'antisémitisme ? Ensuite, on parlera de Madagascar et des droits fondamentaux d'un paysan de Madagascar qui est en fait un déplacé climatique comme beaucoup d'autres. On parlera aussi, on en avait déjà parlé, de TikTok. Un ami qui est loin de vouloir du bien aux enfants et aux jeunes. Et puis d'un Français victime de disparition forcée au Venezuela, de la surveillance de masse utilisée pour cibler les migrants et les étudiants étrangers aux États-Unis. Et en fin d'émission, je vous parlerai des actions du groupe d'Imnois et notamment de la foire aux livres qui va avoir lieu les 10 et 11 octobre 2025 à l'Atrium. Voilà. Donc on va commencer par, est-ce que critiquer la politique de l'État d'Israël relève de l'antisémitisme ? La lutte contre l'antisémitisme, comme contre toutes les formes de discrimination et de racisme, est un combat primordial. Les critiques contre les actions du gouvernement israélien, contraires aux droits humains, sont-elles l'expression d'un antisémitisme ? Définition et explication. L'antisémitisme désigne le phénomène de discrimination, de préjugés, de discours stéréotypés et d'hostilité à l'encontre des personnes juives ou perçues comme telles, et ou de leurs biens, de leur communauté ou de leur institution religieuse au motif de leur croyance religieuse ou de leur identité. La lutte contre l'antisémitisme s'inscrit dans notre travail plus large de lutte contre les discriminations et les différentes formes de racisme que les États ont l'obligation de prévenir, de combattre et d'éradiquer. Des discriminations basées sur des stéréotypes racistes, dont antisémites, sapent le principe fondamental de l'égalité des droits reconnus à chacun et à chacune. Pour cette raison, nous demandons au gouvernement de mettre fin aux discours stéréotypés qui sont nocifs, car ils consacrent et légitiment le racisme. Nous demandons également aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour faire cesser les violences et les persécutions racistes. Pour faire reculer les discours et pratiques racistes ou discriminants, la prévention et l'éducation sont des priorités. Nous sommes alarmés par les déclarations des institutions françaises et des associations représentatives des communautés juives et musulmanes qui relatent l'augmentation des actes de haine, antisémites et islamophobes en France. Nous tenons à rappeler que la critique des actions de l'État d'Israël ne revient en aucun cas à rejeter la faute sur les personnes juives. Les personnes juives, ou perçues comme telles, doivent être distinguées des autorités et des politiques israéliennes et ne pas être considérées comme responsables des violations des droits des Palestiniens et Palestiniennes commises par les autorités israéliennes. De même, demander aux personnes juives de condamner les actions d'Israël simplement parce qu'elles sont juives ou s'en prendre à elle en raison des actes des autorités israéliennes sont des exemples d'amalgame qui relèvent de l'antisémitisme. Nous dénonçons et condamnons la vague de haine et de racisme qui déferle, notamment en France, sur fond d'escalade du conflit en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. D'une manière générale, critiquer un État, ses principes fondateurs, son idéologie ou ses pratiques ne peut être interdit ou pénalisé. Comme l'indique le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, en se fondant sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques, un débat public sans entrave sur les institutions publiques doit être hautement valorisé et protégé. Ainsi, les critiques ou les actions pacifiques, telles que les manifestations, les boycotts, etc., à l'encontre de l'État d'Israël, son gouvernement ou ses représentants, ou des personnes israéliennes qui ont un lien avec les politiques publiques ou les institutions étatiques et qui approuvent ou soutiennent les politiques et pratiques illégales, ne sont pas antisémites et ne devraient pas faire l'objet de restrictions, même quand elles sont considérées comme choquantes ou offensantes, du moment qu'elles ne constituent pas un appel à la haine ou n'incite pas à la violence, à l'hostilité ou à la discrimination. En revanche, prendre pour cible des personnes israéliennes en se fondant uniquement sur leur nationalité relève de la discrimination fondée sur la nationalité, ce qui est interdit en droit international. De ce fait, nous nous opposons aux lois qui interdisent les insultes ou le manque de respect à l'égard des chefs d'État ou de personnalités publiques, de l'armée ou d'autres institutions publiques, ou de drapeaux ou d'autres symboles. L'accusation d'antisémitisme est régulièrement utilisée par les autorités israéliennes afin de discréditer toute critique et empêcher toute remise en cause des violations du droit international commises par le gouvernement israélien. Un exemple de ce procédé a pu être observé lorsque les autorités israéliennes ont dénoncé les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale émis à l'encontre de Netanyahou et de son ex-ministre de la Défense comme une décision antisémite, alors qu'il s'agit d'une décision majeure de la Cour pénale internationale qui rappelle que personne n'est au-dessus du droit international. Ce type d'accusation est à la fois une distraction par rapport au véritable antisémitisme que subissent les personnes juives ou perçues comme telles et qui doit être dénoncé, et un moyen cynique d'échapper à la critique des violations graves du droit international commises par les autorités israéliennes et de maintenir un statu quo dévastateur et illégal. Dans le cadre du conflit israélo-palestinien, nos équipes de chercheurs ont recueilli des preuves de violations du droit international commises par l'État d'Israël envers les populations civiles qui nous amènent à conclure que, premièrement, un régime d'apartheid a été mis en place par les autorités israéliennes envers les Palestiniens et, deuxièmement, les Palestiniens à Gaza sont victimes d'un génocide commis par l'État d'Israël. Il est au cœur de notre mission Amnesty International de dénoncer les violations des droits humains, ainsi qu'appeler leurs auteurs à rendre des comptes et à respecter le droit international. Les actions visant à défendre les droits humains ne peuvent être assimilées à de l'antisémitisme et ne doivent pas être entravées. Nous nous mobilisons dans le monde entier pour défendre et protéger les droits humains en toute impartialité. La priorité d'Amnesty International sera toujours de veiller à ce que les vies des civils et les droits humains soient protégés. Voilà, on va maintenant écouter une chanson de Jean-Guy Coulange, mon cousin, qui parle chanson des villes sur justement les villes torturées et massacrées, comme ce qui se passe à Gaza en ce moment.
Mes villes en rang, mes villes en sang, mes villes fusillées, mes villes bâillonnées, ça fait si mal, ça fait si mal. C'est Guernica, c'est Varsovie, Hiroshima, c'est Paris. C'est Alésia, du sang partout, c'est Stalingrad, c'est Dien Bien Phu. C'est Dien Bien Phu. Mes villes ouvertes, mes villes inertes, mes villes bombardées, mes villes cloisonnées, ça fait si mal. Ça fait si mal. Milliers d'otages dans le silence, c'est toi Carthage, c'est toi Numance. C'est entre Mons et Requiem, un autre nom Jérusalem. Jérusalem. Mes villes en armes, mes villes en larmes, mes villes mutilées, mes villes mitraillées, ça fait si mal, ça fait si mal. Et les villages, oh mes amours, dans le carnage comme au radour. Quels sont ces cris, ces trahisons, ô mes amis, ô ma maison, ô ma maison. raison. Ma ville orgueil, ma ville en deuil, un homme l'a sauvée. Ma ville délivrée, n'oubliez pas, n'oubliez pas.
Voilà, nous partons maintenant à Madagascar. Au sud de Madagascar, la sécheresse pousse les populations à fuir la famine. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres, elles continuent de subir de graves violations de leurs droits humains. L'exemple de Damisoa y fait partie du peuple des Entendrois qui vit au sud de Madagascar. Les Entendrois souffrent des sécheresses dont les épisodes sont intensifiés à cause du changement climatique. Vivant de l'agriculture et de l'élevage du bétail, les sécheresses successives menacent les populations de famine. En 2021, 1 million de personnes souffraient de la famine. L'agropasteur de 48 ans n'a pas eu d'autre choix que de fuir la région avec sa femme et ses 3 enfants en octobre 2020. Comme de nombreux déplacés climatiques, il s'est rendu au nord, dans la région de Bueni, à près de 1500 km de son village d'origine. Aucune aide de l'État ne leur a été fournie à leur arrivée et ils ont fait face à des difficultés pour trouver un logement et se nourrir. Ce n'est qu'en mars 2023, 2 ans après leur arrivée, que Damisoa et sa famille ont été relogés dans le cadre d'un projet pilote de réinstallation des déplacés climatiques. Les autorités l'ont désigné comme responsable de la zone. Mais la situation sur le site ne s'est toujours pas améliorée. Isolés dans une région à peine plus fertile que celle qu'ils ont quittée, les déplacés climatiques souffrent d'un manque d'accès à leurs droits les plus fondamentaux, à l'alimentation, à l'eau, à la santé, à l'éducation, à l'hygiène et au logement convenable. Les huttes ne sont pas protégées de la pluie et du vent, l'accès à la nourriture et à l'eau potable est entravé et l'accès aux soins de santé est limité lors de la saison des pluies où il est presque impossible de quitter le site. Au début de l'année 2025, la nièce de Damisoa, Citella, est décédée à l'âge de 3 mois. Sa mère, affaiblie par la faim et la soif, ne pouvait plus l'allaiter. Il nous a dit « Nous n'avons aucune graine à planter, aucun zébu, aucun outil agricole. La terre n'est pas fertile. Nous avons essayé de planter, mais dès que les racines commencent à s'étendre, la terre se fendille et la plante meurt. L'État malgache doit prendre de toute urgence des mesures concrètes pour garantir les droits des déplacés climatiques dans la région de Bueni et dans le reste du pays. Voilà pourquoi Amnesty International s'intéresse aux effets du changement climatique sur les droits humains. Voilà, donc il y a sur le site amnesty.fr une pétition en ligne adressée à M. Elak Olivier Andria Kaja, qui est le directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes à Madagascar. Donc vous pouvez aller sur le site amnesty.fr et signer cette pétition. On va maintenant écouter le groupe qui s'appelle le Caribou Volant et qui chante une chanson justement, chanson climatique 2.0.
J'entends parler des faits de serre. La maîtresse nous disait penser à éteindre les lumières. C'est mieux pour la planète si on devient tous responsables. Alors faites attention, ne gaspillez pas l'eau potable. Et puis en grandissant, j'ai remarqué que les grands magasins, toute la nuit durant, laissaient allumer leurs vitrines. C'est peut-être que leurs gérants ne sont pas éco-citoyens, ou bien qu'ils sont sûrement en overdose de caféine.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
parler de la croissance. Mon prof décodisait le chômage est une évidence. Pour être compétitif, il vaut quelques licenciements. Tu sais, le capitaliste fait pas dans les bons sentiments. J'ai lu 2-3 bouquins pour mieux comprendre l'économie. Tes envies, tes synthèses, la guerre ou la consommation. Chômeur consommateur, est-ce la bonne alchimie? Ou peut-être que la croissance n'est pas la bonne appellation?
Que la croissance n'est pas la bonne appellation.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle. C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle. Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Tweet, le réchauffement n'existe pas.
Il faut prendre des mesures pour préserver cette planète.
Alors faites-nous confiance, on va trouver la bonne recette.
Mais est-ce que la croissance peut devenir écologique?
Tandis que sa terre fond, l'ours polaire survit aux eaux.
On voit des pétroliers rêver de migration arctique.
Se frayer un chemin entre ces continents nouveaux.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle.
Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle.
Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
C'est le réchauffement climatique qui nous fait bouillir la cervelle.
Cette croissance frénétique, mélancolique qui nous harcèle.
Voilà, on va maintenant parler de la lettre d'Amnesty. Alors, la lettre d'Amnesty, c'est un journal des membres et des donateurs. Donc, quand vous devenez membre d'Amnesty ou donateur régulier, vous recevrez cette lettre. C'est un petit journal. Alors, Amnesty France édite aussi un mensuel qui s'appelle La Chronique d'Amnesty International, que vous pouvez consulter à la médiathèque de Digne-les-Bains, puisque nous l'avons abonné. Voilà. Et là, c'est un journal beaucoup plus fin, mais qui, à chaque fois, traite d'un sujet. Et au mois d'août, là, nous en avons reçu un qui parle de TikTok, qui est un ami qui est loin de vouloir du bien aux enfants et aux jeunes. En effet, en quelques années, TikTok est devenu bien plus qu'une application de partage de vidéos récréatives et ludiques, un phénomène sociétal et économique, ce qui lui vaut désormais une place privilégiée au sein de ces géants de la tech qui influencent la culture Internet et l'économie mondiale. Mais TikTok est aussi devenu un espace toxique et addictif pour les enfants et les jeunes. Ces algorithmes surpuissants font remonter des contenus nocifs pour leur santé mentale, pouvant aller jusqu'à encourager les idées suicidaires. L'entreprise a parfaitement conscience de ces dangers. Cette dernière ayant reçu de nombreuses alertes de la part du Sénat américain ou encore d'ONG comme Amnesty International, notamment à travers la publication de différents rapports mettant en lumière les menaces du modèle de la plateforme. Pour protéger la santé et les droits de nos jeunes, il est plus qu'urgent d'obtenir des changements. Face à une entreprise de cette taille, à la puissance considérable, seule la mobilisation de tous nos soutiens, votre mobilisation, nous permettra d'y parvenir. On se bat ensemble, on gagne ensemble. Alors TikTok appartient à une entreprise chinoise. Le réseau social TikTok connaît depuis quelques années une ascension fulgurante, notamment auprès des jeunes de 13 à 17 ans, grâce à des vidéos courtes et accessibles à toutes et tous. En 2016, c'était le lancement de TikTok. En 2020, il y avait 500 millions d'utilisateurs. C'était au début de la pandémie. En 2024, ils étaient entre 1,6 et 1,8 milliard d'utilisateurs. Et l'objectif de 2025 est d'arriver à 2 milliards d'utilisateurs. C'est la deuxième application la plus téléchargée dans le monde. Et son chiffre d'affaires s'élève à 16 milliards de dollars. En 20 minutes, un adolescent peut être poussé vers les ténèbres. On imagine un jeune qui s'appelle Jonas. C'est un personnage de fiction, mais c'est ce qui se passe dans la réalité. À 18 heures, ce lycéen de 15 ans, à la veille d'un examen, effectue une recherche sur TikTok pour surmonter son anxiété. À 18h01, il reçoit dans son fil « Pour toi » une première vidéo d'un enfant exprimant son désarroi. À 18h14, 58% des contenus qu'il reçoit ont un rapport avec l'anxiété, la dépression, l'automutilation et le suicide. Et à 18h20, c'est-à-dire 20 minutes après, 72% des vidéos recommandées font référence aux troubles de santé mentale, aux pensées suicidaires et aux désirs de mort. Voilà comment se passe TikTok pour ces jeunes. Alors il faut agir ensemble pour protéger les plus jeunes. Nous publions des rapports, nous faisons pression sur les décideurs comme sur l'entreprise elle-même avec notre pétition Amnesty International agit pour que TikTok cesse de personnaliser le fil pour toi par défaut et laisse les utilisateurs choisir leurs propres paramètres. On demande aussi à TikTok de mettre en place des protections pour empêcher les jeunes à risque de tomber dans des schémas d'addiction et des spirales de contenu douteux et nuisibles. De veiller à obtenir leur consentement éclairé en utilisant un langage adapté aux plus jeunes. Et interdisent les publicités ciblées à destination des mineurs dans le monde entier. Alors, on a eu des témoignages. Par exemple, Louis, un jeune Philippin. TikTok part du principe que tu veux voir ce genre de contenu. Pour moi, les contenus que je préfère voir varient énormément. Un jour, je suis très angoissé et je veux tel type de contenu. Un autre jour, je me sens très heureux. Mais le truc, c'est que je continue de voir le contenu super triste et déprimant, et ça me fiche en l'air. Et là, une jeune fille de 17 ans. Je me sens très envahie et j'ai l'impression qu'ils savent tout de moi. J'essaie de lire les conditions d'utilisation, mais c'est très difficile, et je finis par les parcourir, sans vraiment les comprendre. Vous avez, sur le site d'amnestien.fr, vous pouvez voir les témoignages de parents dont les enfants se sont suicidés. Et ils critiquent, ils ont porté plainte contre TikTok parce que justement TikTok, par l'algorithme, les a poussés véritablement au suicide. Voilà, donc c'est un sujet très grave et vous pouvez bien sûr aller sur amnesty.fr et signer la pétition en direction de TikTok pour qu'il améliore la protection que les enfants ont droit. Voilà, alors maintenant on va écouter une chanson de Moustaki qui nous parle justement de la nature et pour inciter aussi les jeunes à ne pas passer des heures sur les écrans, mais aussi aller promener et voir que la terre, c'est un jardin, en mauvaise posture, mais c'était un jardin.
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la scie et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. Il y avait un jardin, une maison, des arbres.
avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague. Venez le rafraîchir et poursuivez son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la.
Voilà, on va maintenant parler d'un Français qui est victime de disparition forcée au Venezuela. Il s'appelle Camilo Castro. Le 26 juin 2025, à 10h25, il envoie une note vocale à ses proches. Il annonce qu'il doit franchir la frontière vénézuélienne pour essayer de régler son problème de visa. « Je ne sais pas comment je vais régler ça. Ce sera son dernier message. Depuis, il est porté disparu. » Français par sa mère, chilien par son père, un ancien exilé qui a fui le régime de Pinochet, aujourd'hui décédé, Camilo était en train de s'installer durablement en Colombie. Non loin des territoires du peuple autochtone Cogis, il se construit une maison. Mais le chantier s'avère plus long que prévu. Pour prolonger son visa, il se rend au poste frontière de Paraguachon, tout au nord du pays. Son objectif, faire un rapide aller-retour au Venezuela pour faire tamponner son passeport et revenir en Colombie avec un nouveau visa d'entrée. Il ne reviendra pas. Sans nouvelles de lui, ses amis colombiens se mobilisent. La presse locale relaie sa disparition. Dans les semaines suivantes, ses proches reçoivent même des demandes de rançon de différents pseudo-ravisseurs. Finalement, la police colombienne fait savoir que Camilo a été arrêté au Venezuela. Des informations non officielles précisent qu'il a été transféré à Caracas. En France, sa mère, Hélène Boursier, et son beau-père, Yves Gilbert, avec l'aide de l'organisation colombienne Hasta Encontrarlos, multiplie les démarches pour le rechercher. Il contacte l'ambassade de France en Colombie et au Venezuela. Interpol publie une note sur sa disparition. Une demande en habeas corpus est transmise au Venezuela. Le bureau de Caracas du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU est interpellé. Aucune de ces démarches ne permet de localiser Camilo. Finalement, il faudra attendre le 19 juillet 2025 et un échange de prisonniers entre les États-Unis et le Venezuela pour avoir des nouvelles de Camilo. Les ressortissants américains, échangés contre des Vénézuéliens expulsés et détenus au Salvador, confirme avoir rencontré Camillo en détention. On a eu alors beaucoup de détails sur ses conditions de détention, racontent sa mère et son beau-père. On a appris qu'ils étaient deux par cellule, qu'ils avaient deux repas par jour, qu'ils pouvaient sortir une heure par jour, et que Camillo arrivait à faire un peu de yoga, pratique qu'il enseigne depuis plusieurs années. Les conditions de détention semblent relativement correctes. Fait important, Camillo est visiblement détenu avec d'autres ressortissants étrangers dans une aile dédiée de la prison d'El Rodeo, à 40 km de Caracas, plutôt qu'avec des prisonniers de droit commun. Selon les prisonniers libérés, plus de 30 nationalités différentes sont détenues depuis 2024. En plus de ressortissants de pays voisins, la Colombie, l'Uruguay, l'Argentine, ou européens, l'Espagne, l'Allemagne, la France, de nombreux doubles nationaux, mais aussi des Yéménites et des Ukrainiens. Certains prisonniers étrangers sont considérés comme des opposants politiques. Leur arrestation s'inscrit dans une politique systématique et généralisée de répression des dissidents au Venezuela. Mais la plupart des détenus étrangers sont privés de liberté sans raison apparente, comme c'est le cas pour Camillo Castro. Le franco-américain Lucas Hunter, qui a été libéré dans le cadre de l'échange en juillet dernier, faisait du surf en Colombie et avait franchi, sans s'en rendre compte, la frontière avec le Venezuela avant de se faire arrêter. La famille de Camillo évoque aussi le cas d'un Argentin, marié à une Vénézuélienne, arrêté à son arrivée dans le pays alors qu'il avait tous les documents requis pour entrer légalement sur le territoire. Le récent échange de prisonniers entre le Venezuela, les États-Unis et le Salvador confirme que la disparition forcée semble être utilisée comme un moyen de pression politique, notamment à travers des négociations internationales. C'est ce qu'on appelle la diplomatie des otages, qui est utilisée par plusieurs pays. La diplomatie des otages désigne une stratégie politique et diplomatique de certains États qui utilisent la détention de citoyens occidentaux ou binationaux comme un moyen de pression pour obtenir des concessions politiques, économiques ou diplomatiques. C'est le cas actuellement en République islamique d'Iran, qui détient sans raison depuis plus de 3 ans les Français Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, ou de l'Algérie qui a condamné fin juin 2025 le journaliste sportif français Stéphane Glaise à 7 ans de prison sur la base d'accusations fallacieuses. Conscients de ces enjeux, les parents de Camillo Castro décident finalement de médiatiser le cas de leur fils qui est passé ce 27 août son 40e anniversaire derrière les barreaux. On en a assez d'entendre toutes les semaines qu'il n'y a aucune nouvelle, assez de voir que rien ne se passe. Les autorités vénézuéliennes doivent reconnaître détenir Camillo et le libérer immédiatement. La France doit, pour sa part, mobiliser tous les moyens possibles pour obtenir des preuves de vie et de respect de ses droits consulaires. Les proches de Camillo appellent également à mettre en place une coordination européenne afin de faire libérer tous les ressortissants étrangers emprisonnés au Venezuela sans motif légitime. Il s'agit aussi de prévenir d'éventuelles nouvelles arrestations et détentions arbitraires. Il faut faire savoir qu'il ne faut pas se rendre au Venezuela, même en groupe. Voilà un conseil, n'allez pas en vacances au Venezuela. Ces demandes relayées par la famille de Camillo sont aussi celles de prisonniers récemment libérés. Tous ceux avec qui nous avons été contact nous ont dit: il faut faire quelque chose, il faut que les gens sachent ce qui se passe au Venezuela. On va écouter maintenant une chanson de Leonard Cohen, chantée par Cathy Buchshaven.
Tell me you're building Are you living on nothing now? Hope you're keeping some kind of a record.
Nous allons maintenant parler de surveillance de masse avec l'intelligence artificielle qui est utilisée pour cibler les migrants et les étudiants étrangers aux États-Unis. Depuis 2024, les autorités américaines ont renforcé un programme baptisé « Attraper et révoquer ». Celui-ci vise à identifier et expulser rapidement les citoyens non américains qui violeraient des lois américaines, quelle que soit la gravité de l'infraction, en combinant la surveillance des réseaux sociaux, le suivi automatisé des statuts de visa, l'évaluation automatisée des comportements jugés à risque. Deux entreprises jouent un rôle central dans ce dispositif. Babel Suite, avec son outil Babel X, est capable d'analyser à grande échelle les publications sur les réseaux sociaux et d'attribuer une intention ou un sentiment aux internautes. Grâce à l'IA, Babel X peut par exemple parcourir très rapidement les plateformes de réseaux sociaux à la recherche de contenus liés au terrorisme. Palantir et son nouveau système Immigration OS automatisent le suivi, l'arrestation et l'expulsion des personnes ciblées. La directrice générale de la recherche et du plaidoyer Amnesty International nous dit: ces technologies permettent de tracer et de cibler rapidement les étudiants étrangers et d'autres groupes de migrants marginalisés à une échelle et une ampleur sans précédent. Cela se traduit par des détentions illégales et des expulsions massives, créant un climat de peur et exacerbant l'effet paralysant sur les migrants et les étudiants internationaux dans les écoles et sur les campus universitaires. Les technologies probabilistes employées pour tirer des déductions sur les intentions des individus présentent d'importantes marges d'erreur et s'avèrent souvent discriminatoires et biaisées. Elles peuvent conduire à présenter à tort des contenus pro-palestiniens comme antisémites. On revient au premier sujet de notre émission. Nous constatons que l'usage de ces technologies sape de nombreux droits fondamentaux. Le droit à la vie privée, la liberté d'expression et l'accès à l'information, le droit de circuler librement, le droit à l'égalité et à la non-discrimination, le droit à manifester. À titre d'exemple, Mahmoud Khalil, ancien étudiant de Columbia, arrêté illégalement le 8 mars 2025 pour avoir été porte-parole des manifestations étudiantes pro-palestiniennes. Peu après, 9 étudiants étrangers ayant participé à des manifestations ou dénoncé le génocide israélien à Gaza ont vu leur visa ou leur statut de résident révoqué. Autre exemple, Rümeysa Öztürk, doctorante turque à l'université Tufts, arrêtée sans motif valable après avoir coécrit un article critiquant la gestion des mobilisations étudiantes. Dans les deux cas, les autorités ont invoqué des soupçons d'activités liées au Hamas, sans fournir aucune preuve. Entre 1800 et 4000 étudiants étrangers pourraient avoir été visés, parfois sans avoir participé à une manifestation. Palantir et Babel, les deux sociétés, ont une responsabilité. Il est primordial que les entreprises ne contribuent pas ou ne soient pas directement liées à des atteintes aux droits humains. Elles auraient dû refuser de collaborer à ce programme, en raison des risques prévisibles pour les droits humains. L'utilisation de cette technologie risque d'accroître la capacité du gouvernement de Donald Trump à prendre des décisions arbitraires s'agissant d'expulser des personnes marginalisées sur un coup de tête et en masse, tout en offrant un accès limité, voire inexistant, à une procédure régulière. Pour ces raisons, nous appelons le Congrès américain à renforcer ses mécanismes de surveillance et de réglementation afin de garantir le respect des droits humains, les entreprises technologiques à assumer leurs responsabilités en cessant toute activité en lien avec des politiques d'expulsion massive. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump s'en prend ouvertement aux universités et aux campus qui se sont mobilisés contre l'offensive israélienne à Gaza, assimilant ces mouvements de soutien à des actes antisémites. Plusieurs établissements, dont la prestigieuse université Harvard, ont ainsi vu leurs subventions de recherche tout simplement supprimées ou ont reçu l'interdiction de recevoir des étudiants étrangers. On va maintenant écouter une chanson d'un auteur-compositeur disparu trop jeune, Herbert Pagani, dans sa chanson « L'amitié ».
Ça fleurit comme une herbe sauvage, n'importe où, en prison, à l'école. Tu la prends comme on prend la rougeole, tu la prends comme on prend un virage. C'est plus fort que les liens de famille, et c'est moins compliqué que l'amour. Et c'est là quand t'es rond comme une bille, et c'est là quand tu cries au secours. C'est le seul carburant qu'on connaisse, qui augmente à mesure qu'on l'emploie. Le vieillard y retrouve sa jeunesse, et les jeunes en ont fait une loi. C'est la banque de toutes les tendresses, c'est une arme pour tous les combats. Ça réchauffe et ça donne du courage, et ça n'a qu'un slogan, on partage. Au clair de la ciel est plus beau.
L'amitié, c'est un autre langage. Un regard et tu as tout compris. Et c'est comme SOS dépannage. Tu peux téléphoner jour et nuit. L'amitié, c'est le faux témoignage qui te sauve dans un tribunal. C'est le gars qui te tourne les pages quand t'es seul dans un lit d'hôpital. C'est la banque de toutes les tendresses. C'est une arme pour tous les combats. Ça réchauffe et ça donne du courage. Et ça n'a qu'un slogan, on partage. Au clair de l'amitié, le ciel est plus beau. Viens voir à l'amitié, mon ami Pierrot.
Voilà, pour terminer cette émission de rentrée, nous allons parler des actions du groupe Dinois. Le mercredi 24 septembre, à partir de 17h, ce sera notre réunion de rentrée. Nous nous réunissons chez Madame Marido Blanc, qui habite la Villa Blanche, qui est derrière l'étal des Trois-Vallées, derrière le parking de l'étal des Trois-Vallées. Donc, si des personnes veulent voir comment se passe une réunion d'amnistie, ils peuvent très bien venir à cette première réunion et assister à notre réunion. Et puis, si jamais ça les intéresse, nous rejoindre, parce qu'on est toujours en demande de gens qui viennent nous aider et participer au combat pour les droits humains. Ensuite,
vendredi 3 et samedi 4 octobre,
ce sera notre foire aux livres dans la salle de l'Atrium à Digne-les-Bains à côté de la mairie. Voilà, c'est une foire aux livres que nous faisons depuis 25 ans et qui a toujours beaucoup de succès, qui est attendue impatiemment par les lecteurs pour faire la provision à bas prix de lecture pour l'hiver qui approche. Voilà, alors venez nombreux.
Vendredi 3.
De 9h à 18h, non-stop.
Et samedi 4 octobre.
De 9h à 14h. Voilà, alors nous, le groupe, et puis avec des sympathisants.
Le mercredi 1er octobre.
À partir de 14h, c'est l'installation des livres. Donc nous allons les chercher dans le local où ils se trouvent. Et là, je remercie le Secours Populaire qui nous prête gentiment leur camionnette. Donc nous amenons les livres et nous commençons à les ranger.
Et le jeudi 2 octobre, à partir de 9h,
nous passons la journée à classer les livres par thème, etc. Et donc, si des personnes veulent venir nous aider, c'est volontiers. Rendez-vous à 14h à l'Atrium.
Le mercredi 1er octobre.
Et puis le jeudi à partir de 9h, pour ceux qui veulent aider à bien ranger les livres, afin que ce soit très agréable de circuler dans notre foire aux livres. Voilà, donc n'hésitez pas à venir rejoindre Amnesty International, parce que vu la situation des droits humains, de plus en plus catastrophique, nous avons besoin d'un maximum de personnes qui viennent nous aider à proclamer notre opposition à toutes ces politiques contre la liberté. On va maintenant, pour terminer, écouter une chanson de Jacques Lair, qui est un auteur-compositeur de Digne, et qui, à l'occasion d'un concert que nous avions donné, a créé une chanson qui s'appelle « Amnesty, Amnesty » et qui parle bien de de notre travail pour les prisonniers d'opinion notamment. Voilà, je vous remercie.
On l'écoute, merci et au mois prochain, Régis.
Pour seul délit, j'ose penser, trop fort, trop la liberté. Je refuse la dictature, quelques barreaux et quatre murs. Je me retrouve emprisonné, mon intégrité torturée. Ils ont muré mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie. Libère le vol de la colombe, éclaire cet horizon si sombre. Ma faiblesse est d'être un enfant, né d'une ville à feu, à sang. Ils ont mis dans mes mains une arme, pour venger mon peuple et mes larmes. Alors je tire sur des ennemis, qui étaient hier mes amis. Ils ont blessé mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie. Je ne veux plus creuser des tombes, mais voir voler haut la colombe. Je suis né seul, je suis né pauvre. Je n'ai joli livré aux fauves, qui m'offre une cage dorée, où je me sens sali, bafoué, privé de mon identité, abusé, caché, oublié. Ils ont violé mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie. Efface les souillures immondes, déploie les ailes de la colombe. Mon cœur est guidé par un dieu, mais chez moi il n'en faut pas deux. Ils m'ont forcé à le renier, sous une épée je dois prier, sous peine de connaître l'enfer et terminer 6 pieds sous terre. Ils crachent sur mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie. Les dieux volent en paix et en ombre sous les ailes de la colombe. Seul délit est de défendre ce qu'on veut torturer et pendre, d'agir pour que les droits de l'homme ne s'effacent pas d'un coup de gomme. Mon engagement clair et lucide dérange les liberticides. Ils enchaînent mon âme, amnestie, amnestie. Allume ta bougie, amnestie, amnestie. Écris-moi, je t'en prie. Tes coups de plume sur le monde, ouvre la cage de ma colombe. Amnestie, amnestie, allume tes bougies. Amnestie, amnestie, écris-nous, je t'en prie. Amnestie, amnestie, j'allume ma bougie. Amnestie, amnestie, pour libérer, j'écris.